Mon ami Pascal CV. Au monde, on devrait peut-être l'écouter.
Oh là, t'as de la pression, Pascal, là.
Pourquoi?
Ben, déjà, tu fais tout ça, mais faut-tu battre la météo, là?
Ah, mais je pense que je vais y arriver.
Non, mais nous autres, on est énervés comme des enfants de primaire.
Mais je sens d'une la tempête. Fébrilité.
Un vendredi.
Bon, oui, oui. Ça n'a aucun
je
sens.
Je sens la fébrilité et dans le retard aussi. Alors, très heureuse de passer.
Non, ben non, on est en avance de
9h04.
On est 35 minutes en retard.
À quelle heure on t'avait dit d'être là, Pascal? Hein?
Souvent, je suis en onde quand je viens vous voir le samedi à 8h30.
Ah.
Oui. Bon.
C'est le décalage horaire.
Non, mais ça me fait vraiment plaisir d'être là. En plus, j'ai un sujet qui me tient particulièrement à cœur cette semaine.
Okay.
Parce que c'est un sujet que j'avais jasé avec une de mes amies il y a un an, avant la pandémie, parce que je me rappelle, on était au Saint-Hubert, pour ne pas nommer le restaurant.
Oui.
Puis on jasait, puis c'est une fille qui habite à Sherbrooke, qui travaille à Sherbrooke, et qui me disait, hey, c'est fou ce que mes boss ont fait. Sherbrooke. Alors, elle dit, c'est fou ce que mes boss ont fait. Ils nous ont payé les services d'une coach exécutive. Une coach exécutive.
C'est-tu comme une coach de vie, ça?
Ben, c'est ça, première question que
moi,
j'avais.
Je me méfie des coachs de vie.
J'ai rien contre les coachs de vie, mais des fois, ça m'inquiète parce qu'ils m'ajoutent en grand, grand nombre sur Facebook. Puis ils veulent changer ma vie. Mais pourtant, ça me va, ma vie, tu sais.
Oui.
Fait que non, ça n'a rien à voir.
OK, parce qu'en plus, là, puis je ne veux pas faire du millage chez les coachs de vie trop, mais je me souviens plus. C'est-tu un humoriste que j'ai entendu ça, ou en tout cas, je me souviens pas qui, mais il y a quelqu'un que j'ai entendu dire pour être coach de vie, il faut vraiment que tu aies une vie exceptionnel. Je comprends que le coach, pas tout le temps lui qui scorait le plus de buts dans la Ligue nationale, là. Mais tu sais, pour coacher la vie, là, tu peux pas être n'importe qui, là,
mais
pour coacher la vie.
Tu sais, j'ai un jugement qui est à 50-50 dans le sens où si ça fait du bien à des gens de se faire parler, mettons, de problématiques avec des solutions et tout, où j'ai de la misère, par exemple, c'est quand on va aller chercher de l'argent dans le portefeuille d'une personne avec des conseils un peu boboches.
Mais là, on est vraiment plus dans le volet entreprise,
entrepreneurial,
gestionnaire
employé, et
patron,
ça m'a fasciné. Oui.
On a tout un boss quelque part.
Ça m'a fasciné, et elle se met à me parler un peu de cette femme-là, Josée Godbout, qui est coach exécutive, qui a sa propre entreprise, Drive Leadership and Coaching. Vous pouvez la trouver un peu partout sur Internet, puis je vous donnerai les ressources à la toute fin. Mais elle me dit, moi, ça a changé ma vie au travail, parce que on n'a pas nécessairement un gros département de ressources humaines ou autre, puis des fois, j'ai besoin de parler des défis que je vis, mais tu vas pas voir ton patron, puis il n'y a pas le temps, ton patron, des fois, de gérer un peu tout ton travail ou de gérer comment tu vas aborder ton travail.
Mm-hmm.
Puis, elle dit, c'est une aide là, exceptionnelle. On est hyper chanceux d'avoir cette femme-là dans nos vies. Mais mon Dieu, OK. Puis, elle a aussi ce volet-là avec des patrons, mais jamais interreliés, dans le sens où si toi, tu as des choses à parler sur le gestionnaire avec lequel tu travailles, elle va pas aller raconter ça. Elle va t'aider à aller plus loin.
Ouais.
Puis,
fait que mettons que tu as des problèmes avec ton patron.
Ça peut être une chose qui
elle aide, elle te fait ventiler un peu.
Le
mettons.
Coaching. Oui, absolument. Ah, absolument.
Okay.
Donc, je veux vous parler de cette femme-là, Josée Godbout, qui n'est pas coach de vie, qui est coach exécutive. Elle a un parcours étoffé dans ses études aussi. Entre autres, là-dedans, il y a 2 ans de formation au Coach Training Institute en Californie. Des formations à Boston. Un parcours aussi en psychologie. Plein de choses auxquelles elle a touché, puis elle se perfectionne tout le temps. C'est une femme qui, là, on va parler volet gestionnaire aujourd'hui parce que cette semaine, je couvrais un point de presse d'un sondage qui a été fait par Léger ici dans la capitale nationale.
Ouais.
Et on parlait justement de la santé mentale des gestionnaires, des défis qu'ils vont avoir à affronter dans la prochaine année, encore une fois, à cause de la pandémie. Puis, en jasant avec elle, elle me dit, à chaque jour, j'ai des gestionnaires qui cassent en deux.
C'est clair.
Parce que la pression est forte. Tu dois rendre ce que tu rendais normalement. Fait que t'as ton supérieur immédiat qui te demande de rendre...
Ah ouais, c'est ça.
Autant financièrement qu'avec le leadership de ton équipe. Puis d'un autre côté, tu as tes employés qui sont cassés en deux aussi.
Mais c'est comme si, quand tu es un cadre, c'est comme si tu avais moins, dans la perception des gens, tu as moins le droit de pas bien aller. Tu sais, quand tu es un cadre, en général, ça vient avec un meilleur salaire que l'employé, naturellement, mais aussi avec plus de responsabilités. Il faut effectivement que tu livres, puis tu as des patrons qui te mettent de la pression. Ah, c'est comme ça que dans tous les business.
Pression tout le temps.
Mais c'est comme si... Puis ça va, dans la pandémie en général, là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui sont dans cette position-là. Y a des gens qui sont dans la catégorie là qui ont eu les plus gros défis puis les plus gros obstacles à surmonter. Perte d'un être cher, perdre sa job, perdre son entreprise, faire faillite. Ça, c'est vraiment là, la catégorie des gens qui l'ont le plus rough. Mais au-dessus, t'as comme une catégorie de gens qui ont pas perdu leur job, ont pas perdu de proches, mais Thorieux sont en confinement depuis 10 mois. Pareil, tu sais, tu comprends? Mais sauf que, puis moi, je fais partie de cette catégorie-là. Ça va bien, là. Écoute, hey, avec ma blonde, puis moi, on déménage dans notre nouvelle maison dans 3 semaines.
Vous avez encore des beaux événements, c'est ça.
C'est ça, notre couple va bien, j'ai pas perdu ma job, donc ça va. Mais je suis quand même en confinement depuis 10 mois. Donc, ça va pas, c'est pas que ça va pas bien, c'est juste que quand t'es dans cette catégorie-là, c'est comme si t'as pas vraiment le droit de dire ça va pas bien.
Non, ça, c'est déjà une erreur, en fait. C'est quand t'as le droit,
ouais,
mais
c'est ça.
C'est quand tu te compares, tu fais, peut-être que, en plus, ça me rassure de voir que ma condition est pas si mal.
Ben, tu te dis à toi, hey, arrête de chioler, là, puis prends-toi, ça va pas si mal, là, regarde, ça va bien. Mais, il faut aussi, puis les cadres en entreprise, j'ai l'impression que c'est un peu ça, ils sont un peu dans cette catégorie-là. T'as encore ta job, mais tu sais, il a fallu que tu slackes du monde, des employés à qui tu tiens, puis tu reconnais le travail qu'ils faisaient. Oui. Tu sais que l'entreprise va être plus difficile à manœuvrer
et
sans ces gens-là.
Et que leur vie à eux va être impactée.
Ben oui.
Peut-être qu'à la maison, c'était le seul salaire aussi de la maison. Tu sais, il y a plein de choses qui encadrent une mise à pied.
Mais
là,
t'as pas le choix. Il a fallu que t'es clair parce que c'est ta responsabilité de le faire.
Puis il faut que l'entreprise continue à rouler avec les mêmes performances, avec moins de monde pour les produire, ces performances-là.
Puis là, ben, c'est comme si tu te fais taper sur la tête par en haut ton gestionnaire supérieur, puis tu te fais aussi un mauvais sang parce que tu dois gérer ton équipe dans les conditions.
Mais t'as pas le droit de dire ça va pas bien parce que t'es un cadre, t'as un bureau, ça va bien, t'es supposé d'être correct, t'as des avantages, t'as un bon salaire.
Parce que si tu dis au boss, ouais, mais là, non, ça marchera pas si on fait ça, puis là, le boss du cadre, là, il va dire, t'es-tu en train de me dire que t'es pas capable de faire cette job-là? Parce que j'en connais du monde qui sont capables de le faire.
Ben oui.
Ça fait qu'ils vont prendre ta place. Puis généralement, quand t'es cadre, généralement, t'as pas beaucoup de sécurité d'emploi.
Non. Puis faut que tu répondes au téléphone la fin de semaine.
Ouais.
Fait que vous voyez un peu là, la sphère dans laquelle il patauge. Et elle faisait son travail bien avant la pandémie, mais ça s'est complexifié beaucoup. Comment ça se passe, une journée type pour José Godbout? Ben souvent, elle se déplace. Elle va aller rencontrer les gens qu'elle a rencontrés peut-être dans les bureaux, même dans un café des fois, où elle va aller prendre une marche avec le gestionnaire. Souvent, ça fait en sorte que on sort de l'environnement de travail et ça aide à focusser ou encore à laisser libre cours aux émotions. Quand t'en as, tu veux pas que tes employés voient ça, ou en tant qu'employé, tu veux pas que tes gestionnaires, tes patrons, tes collègues voient ça. Donc, ça peut être un petit peu partout. Et avec les gestionnaires, on verra pour les employés dans une autre chronique, là, mais quand on travaille avec eux, au départ, on cible leurs forces, leurs faiblesses, on met de l'avant les réussites et les objectifs qu'on a envie d'aller toucher. Et une fois qu'on a mis en place un peu le profil du gestionnaire, on regarde les défis qu'ils vont avoir besoin d'affronter.
Après ça, on regarde quels ont été les défis ou quels sont les défis actuellement ou qu'est-ce qui empêche le gestionnaire peut-être soit de mobiliser ou de motiver son équipe ou d'avoir les relations qu'il souhaiterait avoir et surtout, d'avoir l'influence et l'impact qu'il souhaiterait avoir. Il n'y a pas un gestionnaire, dans le fond de lui-même, qu'il sache ou qu'il ne sache pas, prend pas un poste de gestion pour avoir plus d'impact, pour avoir une influence positive sur les gens. Il y a personne qui va au travail puis qui dit, ben moi, je suis rendu gestionnaire pour avoir une influence négative sur les gens puis les faire chier. C'est pas comme ça. Je m'excuse mon langage, mais c'est pas comme ça. Et par la suite, on va regarder quels sont les moyens pour justement passer de l'état désiré de l'état actuel à l'état désiré. Quels sont les leviers qu'on a besoin d'utiliser envers lui-même, puis envers les gens qui l'entourent aussi. Donc, un gestionnaire qui m'appelle, par exemple, qui me dirait, « Hey, José, là, j'ai vraiment un problème avec mon équipe. Tu peux-tu guérir mon équipe? Tu peux-tu fixer mon équipe? » Puis que lui veut pas faire la démarche de se regarder lui-même à travers tout le processus, ben souvent, c'est des mandats que je prendrai pas. Parce que c'est comme dans un couple dire, « Bonjour, José, tu pourrais-tu, s'il te plaît, régler ma conjointe pour qu'on puisse avoir une vie de couple agréable? » Ben c'est sûr que je vais pas intervenir, tu sais, parce qu'il y a une partie de l'angle mort chez la personne qui me contacte qui est trop grande. Il faut qu'il y ait une implication puis un engagement.
Donc, faut voir quand même à quel point tu veux embarquer dans un processus comme ça pour être un meilleur gestionnaire. Ouais. Souvent, on a le débat. C'est pas nécessairement les meilleures personnes avec le meilleur leadership qui se retrouvent dans ces postes-là. C'est peut-être le meilleur vendeur de la gang de vendeurs qui finalement devient gestionnaire. Puis ça peut causer des problématiques sur comment tu vas gérer ton équipe par après parce que t'as pas les compétences nécessairement. J'avais demandé c'est quoi son exemple de réussite par excellence. Puis elle a dit, mon Dieu, il y en a quelques-uns quand même. Mais elle a dit, je me souviens précisément d'un gestionnaire fantasme qui est un peu rebelle dans son application de ce que son patron lui demande et ce que les employés ont comme perception de lui. Pas très accessible, toujours dans l'autorité, un peu déplacée, tannante. Elle dit, à un moment donné, il a fait du coaching avec moi et il s'est rendu à aller un petit peu plus loin dans sa démarche et s'est remis en question. Et la preuve que ça fonctionnait et qu'il avait changé son style de leadership, c'est qu'il a attendu un enfant avec sa conjointe et tous ses employés ont fait un genre de party avec des témoignages hyper touchants. Et il a dit, ça n'a aucun sens. Je n'aurais jamais eu ça un an auparavant si j'avais pas changé mon style de gestion. Maintenant, okay, je me sens près de mon équipe et ses employés n'avaient plus du tout le même discours par rapport à ce gestionnaire-là. Un rôle de pouvoir pour un gestionnaire, c'est pas toujours facile. Est-ce qu'on doit être ami avec nos employés? Est-ce qu'on ne doit pas être ami avec nos employés? Est-ce que ça rend le gestionnaire moins crédible? José en a parlé avec moi.
Ben, on tombe dans tout ce qui est la notion de pouvoir et le rapport au pouvoir. Les gestionnaires, quand ils sont nommés en poste, leur relation au pouvoir, elle n'est pas toujours claire et elle n'est pas toujours mature. Donc, au fur et à mesure qu'ils avancent dans la découverte de ce que c'est réellement le pouvoir, puis le pouvoir pour eux. Donc, moi, si j'arrive dans une relation de pouvoir avec une équipe ou avec un groupe, j'aurai pas la même façon d'avoir une relation de pouvoir que toi, tu vas avoir, par exemple. Donc, moi, j'ai à découvrir c'est quoi mes clés à moi pour être capable d'avoir cette relation de pouvoir-là et être capable de me promener d'un style de leadership à un autre. Donc, le style de leadership dont tu parles, qui tu dis plus assumé, c'est souvent le style de leadership qui est plus autoritaire. Donc, on a besoin de ce chapeau-là dans notre façon de leader. Par contre, si c'est mon mode par défaut, parce que j'ai peur que si je suis dans un mode plus collaboratif, je vais perdre le contrôle, ben je vais faire un abus de pouvoir parce que j'ai pas apprivoisé ce que c'est que le pouvoir pour moi et ce que ça fait le pouvoir sur les autres. Donc en général, dans ce temps-là, je vais être plus dans un pouvoir sur que dans un pouvoir avec.
Ben oui.
Et dans tout ce qui est nouvelle forme de gestion, surtout avec toutes la nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail, quand ils arrivent avec des patrons qui utilisent la forme de pouvoir sur, ils n'ont pas envie de travailler ou ils resteront pas longtemps. Le pouvoir avec est de beaucoup valorisé maintenant parce que on va se sentir d'égal à égal. Même si je sens que tu as un rôle d'autorité sur moi, je ne sentirai pas que tu vas en abuser parce que je vais faire confiance que tu sais où sont les limites de ce rôle-là.
Ben c'est clair, c'est sûr. Moi, j'ai toujours dit, le meilleur boss que j'ai eu dans ma vie, c'était un boss qui s'organisait pour que quand il fallait serrer la vis un peu parce que la gang était indisciplinée et qu'il y avait des mandats à rendre. Tu sais, c'est une job où tu avais des mandats sur une base, à peu près, c'était aux 2-3 semaines, mettons. Là, que là, fallait que tu donnes une go parce que faut vraiment qu'on rentre, qu'on livre absolument. Ben, c'était le patron que tu voulais pas décevoir.
T'sais, parce que tu l'appréciais.
Le patron qui te fait peur, là. À ça, puis je dis qu'il te fait peur.
Ou qui est dans la micro-gestion, qui est toujours sur ton dos.
C'est ça,
qui regarde tout ce que tu fais avec...
Lui, il te gosse. Fait que tu passes plus de temps à te dire, voyons, c'est bien fatigant, puis pour qu'il se rende compte du travail que je fais et autres, versus le patron qui a confiance en toi, puis que tu veux pas décevoir. Lui, la fois où t'as l'impression, juste l'impression, t'es pas certain s'il est 100% fier de toi, tu vas mettre les bouchées doubles parce que tu veux y en donner, tu comprends?
Oui.
Mais c'est facile à dire, c'est pas si évident à faire.
C'est pas facile. C'est pour ça que des fois, il faut avoir un encadrement puis connaître un peu son pouvoir puis comment l'exercer. Tu sais, elle me disait, j'ai dit, est-ce-tu mal un patron qui, par exemple, va prendre un verre avec ses employés? C'est-tu bizarre? C'est-tu mal vu? Est-ce que là, c'est moins crédible aux yeux? Elle dit non, non. Elle dit, l'important, c'est que ce soit nommé. Regardez, on prend un verre ensemble, on s'amuse ce soir. On parle pas de job, on a du plaisir d'humain à humain, de collègue à collègue. Mais il dit, demain, par exemple, on a une grosse journée, là, va falloir se recentrer, on aura eu du... Que ce soit bien nommé, pour que tout soit clair. En tant qu'employé, vous avez aussi un rôle de pouvoir que vous pouvez exercer avec votre patron. Surtout quand c'est le moment où vous dites, « C'est bien passif dans ma job, ça avance pas, j'ai pas le rôle que je voudrais être là. » Mais le non-dit fait pas avancer. Elle parle du rôle du pouvoir pour un employé.
ayez le courage d'aller le voir, dire hey, ça m'intéresse. J'aurais peut-être envie d'essayer tel job dans l'entreprise, ou j'aurais peut-être envie de faire telle formation, ça serait-tu possible, ou j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour justement pouvoir avoir accès à ces ressources-là. Et c'est étonnant, parce que chaque employeur, là, ou chaque gestionnaire, s'il gère une équipe de 50, par exemple, là, malheureusement, là, il a beau vouloir connaître tout le monde, il peut pas savoir en détail ce que chacun exactement a besoin. Mais l'employé de son côté, il espère que son employeur, il va être capable de voir ce dont lui a besoin à travers les autres 50. Fait que c'est étonnant de voir ce que ça a comme impact sur la motivation, justement, sur la mobilisation et même sur la productivité des employés quand il y a cette reprise de pouvoir-là, puis qu'on arrête d'attendre que l'entreprise nous fournisse ce dont on a besoin pour progresser dans notre vie professionnelle. Et souvent, les gens qui vont arriver à dire bon, ben là, mon employeur, moi, il fait rien pour moi, fait que je me suis trouvé un autre job, ciao, bye, je te donne ma démission, je pars dans 2 semaines. Et il n'y a jamais eu de discussion préalable pour voir si ce qui était critiqué aurait pu être changé. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais je vois ça très souvent.
Ouais, je comprends, là, mais en même temps, va voir un boss pour lui dire ouais, dans ta façon de gérer, je suis pas sûr que c'est hot sur tel point. Sérieux, moi, je ferais pas ça, là, je m'excuse.
Mais est-ce que tu serais à l'aise?
Peut-être que je me trompe, mais je
serais à l'aise de dire, regardez, là, il n'y a pas tel type de poste au sein de l'entreprise ou personne qui est affectée à telle affaire, ou moi, j'aimerais ça aller là ou faire cette formation-là. Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu serais à l'aise pour prendre les devants?
Ben oui, mais je te parle, si la façon, tu sais, si t'as un boss, puis, tu sais, qui, dans sa façon de gérer, qu'il y a des affaires qui ne marchent pas à ton sens, à toi, t'es un employé, tu trouves ton boss, il gère mal sa business. Mais là,
parle plus de ta position au sein d'une entreprise.
Ouais, ça.
Pas de remettre d'en face à ton gestionnaire qui en est un mauvais.
Non, ça, c'est important. C'est important que ton boss, il sache c'est quoi tes ambitions, puis tout ça, oui. Mais, tu sais, mettons que, je sais pas, moi, ça va pas avec ton patron pour une raison XY, là, puis je t'avoue que je suis pas très familier avec ça, mais mettons que ça va pas bien, puis assez pour que tu changes de job. Ben, puis qu'il y a effectivement pas eu de discussion avant. Je me demande juste, OK, sur tes ambitions, c'est vrai que ça, c'est un point, mais tu sais, si ton patron, c'est un mauvais boss, ça se peut.
Si
là,
c'est par rapport à la relation, boss, oui.
Ben, qu'est-ce que tu fais? Tu veux pas aller dire, hey, là, t'es sur mon dos, lâche-moi. Ben, il va dire, ouais, mais garde.
L'opinion personnelle, tout, là. Moi, je pense que je serais à l'aise d'aller voir un supérieur, de parler au jeu. Hey, je me sens comme ça. Ça m'a rendu mal à l'aise. J'aime pas trop cette dynamique-là.
Ah,
je suis inconfortable dans la dynamique actuelle. Pour moi, ça, c'est pas ce que j'apprécie dans l'entreprise.
T'es pourri!
mais j'aurais réfléchi avant. Je me dirais, ouais, par exemple, ouais, c'est ouais. Ma dernière solution, puis après, je mets mes culottes et je m'en vais parce que ça ne me convient pas.
Et c'est embêtant. Écoute, Pascal, ça doit quand même aussi toucher beaucoup de monde vu qu'on est en télétravail. Les rôles de tout le monde ont changé, puis autant des employés que des patrons. Mais c'est bien instructif, cette discussion-là que tu as eue avec la madame. Peux-tu m'en dire comment elle s'appelle?
Josée Godbout, elle est coach exécutive. Et puis, vous pouvez aller voir, là, ça s'appelle Drive Leadership et Coaching. Elle a une page Facebook. On peut la contacter par Instagram. Et elle a un outil aussi pour les gestionnaires, le Survival Kit for Leaders, c'est en anglais, mais 9-1-1 outil pour gestionnaires en ce moment dans la crise. Peut-être que ça pourrait vous servir. Et par vraiment le mis là, en lumière quelque chose pendant qu'on se parlait tout le long, la fameuse liste de problèmes-solutions. Là. Souvent, on dit « Ah, c'est quétaine, j'ai pas envie. » Elle dit, nombreux sont les gestionnaires qui me disent hey, « J'ai pas le temps de faire ça, ça m'intéresse pas.
Ouais, » ouais.
Mais elle dit « Se couche, par exemple, là, la tête, elle roule, tu dors pas. » Elle dit, je leur dis « Essayez de faire la liste. » Là. Puis après, ça va être les mêmes problématiques. Vous allez devoir essayer de faire les mêmes solutions, mais ils vont être sur papier, ils seront plus dans votre tête. Ils bloqueront plus la possibilité d'aller plus loin dans vos pensées. Ce qui fait en sorte que toutes vos problématiques bloquent en ce moment.
Puis ils vous empêcheront pas de faire votre sieste du samedi après-midi.
Mmh. Oui!
Ça, c'est important, la sieste du samedi après-midi.
Fait que j'ai eu une très grande discussion avec elle. Je vous rendrai disponible vraiment le contenu intégral avec grand plaisir parce que ça a été super intéressant.
Merci, Queen P, ladies and gentlemen.
Que Québec se lève. On prend une petite pause. On vient ensuite. Restez là.
Que Québec se lève.